se croyait pourtant bien intégré par les gens de Sodome, qu'il appelait naïvement « mes frères ». Mais il se trompait lourdement. Heureusement, les envoyés de Dieu qui l'accueillent chez lui vont intervenir avec puissance. Lisons le verset 10 de Genèse 19. « Les deux hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot près d'eux dans la maison, et ils fermèrent la porte. Et ils frappèrent de cécité les gens qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne pouvaient plus retrouver l'entrée. Les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Un gendre, des fils, des filles? Tout ce que tu as dans cette maison, fais-le sortir de cette ville. Nous allons en effet la détruire, car elle est grande, la plainte qui est montée devant le Seigneur à son sujet. Il nous a envoyés pour la détruire. » Alors Lot alla parler à ses gendres, ceux donc qui allaient épouser ses deux filles, et il leur dit, « Debout, sortez de cette cité, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais les gendres ne le crurent pas, ils croyaient qu'il plaisantait. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes deux filles, de peur que vous ne périssiez à cause de la faute de cette ville. » Et comme ils s'attardaient, les deux hommes les tirèrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Voilà, décidément, ce portrait de Lot nous révèle, je dirais, un homme bien peu dégourdi. Il ne prend pas vraiment les bonnes décisions, il ne comprend pas la gravité, la réalité des situations. Il n'arrive même pas à bien expliquer le danger à ses futurs gendres. Il est lent à réagir dans l'urgence. Je dirais qu'il est un peu empoté. C'est un peu de tout cela qui fait que Dieu, nous dit le texte, a pitié de lui. Lisons la suite, verset 16, toujours chapitre 19. Les deux hommes le firent sortir pour les mettre à l'abri hors de la ville. Comme ils le menaient dehors, ils dirent à Lot, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans le district. Fuis vers la montagne, de peur de périr. » Mais Lot répond, « À Dieu ne plaise, je ne pourrai pas fuir jusqu'à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. Vois, cette autre ville assez proche pour y fuir, elle est minuscule, je voudrais m'y réfugier. » Il cherche à courir moins loin. Je trouve que Lot se montre presque agaçant de faiblesse et d'impuissance, et pourtant Dieu va continuer d'avoir pitié de lui. Là, voyons la suite. Dieu lui dit, « Vois, je te fais encore cette faveur et je ne bouleverserai pas la petite ville dont tu me parles, donc réfugie-toi là-bas au plus vite, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » Voilà, c'est vraiment réconfortant de voir à quel point Dieu peut se montrer patient avec nos déficiences humaines. Lot clairement là pour nous rappeler que Dieu a pitié des faibles et des inadaptés, qu'il leur propose toujours une main tendue, quel que soit leur état. Continuons quand même le chapitre 19 de la Genèse, verset 23. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans la petite ville. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Cela venait du ciel et du Seigneur. Il ravagea ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Et voilà. Il n'y a donc pas que Lot qui était un peu inadapté. Sa femme aussi, visiblement, puisqu'elle n'a pas pris la mesure de l'interdit de Dieu, interdit de se retourner. Mais cette désobéissance ici va lui coûter la vie. Quant à Lot et ses deux filles, après le cataclysme, ils se mirent en route vers les montagnes pour se mettre à l'abri des gens du pays. Ils commençaient à en avoir un peu peur. Et pourtant, là, l'histoire de Lot ne s'arrête pas du tout à ce moment-là. Il semble bien que nous arrivons maintenant à un sommet d'étrangeté dans l'histoire de cet ancêtre. Je vous lis la suite à partir du verset 31. La fille aînée dit à sa cadette, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume. Alors, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée des filles vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Et le lendemain, l'aînée dit à la cadette, « Vois, la nuit dernière, j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et à ton tour, tu iras coucher avec lui. » Et Lot n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab, qui fut le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ammi, qui est le père de tous les Ammonites. Voilà, une histoire loin, très loin de la morale, pourtant très stricte, qu'on associe généralement à la parole de la Bible. Nous devons quand même noter que les Moabites et les Ammonites qui descendent de ces liaisons incestueuses furent, en général, les ennemis jurés d'Israël. La cause en est peut-être justement quand même leur étonnante origine. Et pourtant, n'oublions pas quand même que, bien plus tard, Ruth, la Moabite, va épouser Boaz et se trouver dans la généalogie de Jésus, car elle fut la grand-mère de Jessé, le père de David. Alors, que peut-on retirer de tout ça ? Peut-être l'idée que Dieu peut toujours faire du bien avec du mal. Alors maintenant, nous laissons là Lot, dont la vie ne fut pas un exemple d'intelligence et de courage, mais que Dieu a toujours pris en pitié et protégé malgré tout. C'est rassurant pour nos propres vies, pas toujours impeccables, ce qui ne doit pas nous empêcher d'espérer le pardon et la miséricorde de Dieu. Et à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.
Et joindre Radio Présence, c'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com, par courrier, 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse, par téléphone au 05 62 48 63 00, et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com. Radio Présence
à Lannemezan 92.2. C'est à travers vous que Dieu m'a parlé. Par vos mains et par vos mots, Dieu m'a gardé. Je contemple et je comprends son amour. Quand je vous vois, ce que j'ai, ce que je suis, c'est tout que je vous dois. Tout prend un sens, oui, votre union est l'essence même de ma naissance, mais aussi de ma nouvelle naissance. J'écris ce texte avec plus d'amour que d'aisance. Papa, maman, recevez ma reconnaissance. Ma reconnaissance, c'est tout ce que je peux vous offrir. Je suis pas toujours obéissant, même si je veux pas vous faire souffrir, non. Donc pour tout ça, je veux demander pardon. C'est parfois en faisant des dégâts que j'ai tiré des leçons. Pardon pour toutes les fois où je cherche à avoir raison. Pardon d'avoir été ingrat, de vous dire ça qu'en chanson. C'est vrai, y'a des choses que je regrette, mais il y en a tellement plus qui me donnent une raison d'être. Une raison d'être, une raison de croire, une raison à savoir, une direction à avoir. Vous avez tellement fait pour moi, je peux pas vous décevoir. Vous m'avez tellement montré Dieu, je ne peux que lui rendre gloire. Vous êtes les modèles qu'il m'a donnés. Mais ne soyez pas étonnés, ces limitations est erronée. Je pourrais jamais vous rendre la monnaie de tout ce que vous m'avez donné, je le reconnais. Maman, à travers toi, Dieu m'a parlé. Par tes mains et par tes mots, Dieu m'a gardé. Notre famille a été ton premier champ de mission. En te voyant, j'ai compris le sens de la soumission. J'ai compris le sens du mot famille en le vivant. Tu m'as appris le sens du sacrifice en le vivant. Tu m'as inculqué des valeurs en les vivant. Tu m'as montré qui est Dieu en les suivant. Et c'est au cœur de son cœur qu'à chaque heure tu veux demeurer. Maman, je me souviens pas d'avoir vu pleurer une femme forte et persévérante. Dans ta relation avec Dieu, t'es toujours constante. Tu te lèves tôt tous les matins pour prendre du temps avec lui. Et ta sagesse, j'ai même pas le temps de la décrire. Oui, dans chacun de mes projets, par toi, j'ai toujours été encouragé et dirigé. Papa, à travers toi, Dieu m'a parlé. Par tes mains, par tes mots, Dieu m'a gardé. Et m'a montré ce que c'est de vivre dans l'honnêteté et la vérité. Papa, à travers toi, Dieu m'a montré ce qu'est l'humilité. Je suis ton imitateur, comme tu l'es de Christ. Pourtant, ta vie n'est pas facile et pleine de sacrifices. Pour que l'aies quelque chose à avaler, tu ne cesses de travailler. Parfois, tu as dû batailler, mais tu n'as pas braillé. Tu as pris soin de nous pendant toutes ces années. Je t'admire même si je ne te le dis jamais. Envers nous de patience tu as usé. Devant nous t'es même prêt à t'excuser. Et à travers ta maladie tu t'es révélé. Je n'ai pas de mal à dire que depuis ma foi s'est éveillée. Papa, je vois de toi un grand amour émanant. Et j'essaierai d'aimer ma femme comme tu aimes maman. Oui, c'est à travers vous que Dieu m'a parlé. Par vos mains et par vos mots Dieu m'a armé. Vous m'avez appris à marcher mais pas que sur la terre. Vous m'avez appris à parler mais aussi à me taire. Vous m'avez appris contre qui ou quoi il faut lutter. Je ne vous ai jamais vu vous disputer. Jamais. Je suis si fier d'être votre enfant. Papa, maman, merci de m'avoir dit non si souvent. Merci de m'avoir appris ce qui est vraiment important. À me contenter de peu et à racheter le temps. Vous m'avez donné des limites mais aussi de la liberté. Vous m'avez donné votre confiance donc je ne veux pas la heurter. Si je vous respecte c'est par amour, pas par peur. Et si j'écris tout ça c'est pas pour que papa pleure. Non, mais c'est juste pour vous honorer. Car si ma vie n'est pas sombre, c'est que vous l'avez colorée. Non, vous n'êtes pas parfait, mais vous savez reconnaître vos torts. Vous savez vous remettre en question et faire des efforts. Non, vous n'êtes pas parfait, mais vous imitez celui qu'il est. Vous rejetez ce qu'il rejette et vous aimez ce qu'il aime. Quand j'y pense, je suis désolé. Désolé de ne pas fermer la maison à clé. Désolé pour ma chambre qui n'est jamais rangée. Désolé pour mon style et ma manière de parler. Dans mon adolescence, j'ai pas fait de crise grâce à vous. Je crois au mariage et en la famille grâce à vous. Et si je crois en Jésus, c'est aussi grâce à vous. Et si je vous ai eu, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. À travers eux, tu m'as parlé. Par leurs mains et par leurs mots, tu m'as gardé. Je prie que jamais leur bonheur ne se dissipe. N'oublie pas qu'ils ont fait de moi ton disciple. Et je te remercie car c'est ton plan qui s'accomplit. On sait que tu es souverain et c'est pour ça qu'on prie. Donc s'il te plaît, mon Dieu, garde-les dans tes mains. Ils t'ont servi fidèlement et n'ont cessé d'être tes témoins. Faber et Daniel peuvent le confirmer. Axel, Arnold et Samuel peuvent le confirmer. Billy, BG et Edine peuvent le confirmer. Maggie, Kenny et l'église peuvent confirmer. Il y a beaucoup de choses que j'ai évoquées, mais le plus important c'est la vie que toi tu as vécue. Je me plais à l'idée de passer l'éternité avec eux, mais aussi avec toi par qui la mort est vaincue. Il y a beaucoup de choses que j'ai évoquées, mais le plus important c'est la vie que toi tu as vécue. Je me plais à l'idée de passer l'éternité avec eux, mais surtout avec toi par qui la mort est vaincue et les remords évacuent. Par qui la mort est vaincue et les remords évacuent. Père, tu étais là dès l'époque où elle me donnait le sein.
ou pour m'apprendre à marcher, il me donnait la main. C'est aussi toi qui as voulu qu'elle lui donne son bras. À travers eux, c'est un modèle que tu donnes à chacun.
Présence.
Radio Présence, 18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous invite à suivre aujourd'hui et tous les jours de cette semaine. Pour intervenant au micro, je reçois un philosophe, homme politique, Jean-Frédéric Poisson, auteur d'un livre paru aux éditions MAM, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Je vous salue sans plus tarder. Bonjour monsieur Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour, bonjour.
Alors,
à tous.
Alors oui, philosophe, homme politique, d'un parti via Parti chrétien-démocrate qui a changé récemment de nom.
Nous étions appelés Parti chrétien-démocrate il y a quelques années. Nous avons été accusés d'être des communautaristes et consacrés à la défense exclusive des chrétiens au mépris de tous les autres. Et compte tenu du fait que nous n'avions pas le temps nécessaire pour expliquer à chaque fois que, évidemment, le christianisme, c'est l'antithèse du communautarisme. Enfin, le message est universel. Le message du Seigneur est pour tous. La politique, qui sont ceux des messagers du Seigneur, et pour tous aussi. Et nous n'avions pas suffisamment de temps jamais pour expliquer tout ça, donc nous avons décidé de nous appeler Via, le chemin comme je suis la voie dans l'évangile de Saint Jean. Alors c'est un peu ésotérique, il faut le reconnaître. Et la voix du peuple, parce que nous sommes là aussi, nous sommes des chrétiens sociaux, la pensée sociale chrétienne est inscrite formellement dans nos statuts. Dans le même article de nos statuts, il est écrit que nous défendons la dignité humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc c'est un message qui est la déclinaison de ce que le Seigneur nous invite à faire dans ce monde. Et compte tenu des attaques récurrentes, massives, très agressives contre les chrétiens dans le monde entier, je le sais depuis longtemps, je me suis beaucoup occupé des chrétiens d'Orient et des chrétiens persécutés dans le monde pendant mes mandats de parlementaire, mais maintenant en France de manière renforcée, nous avons décidé de porter la bannière des chrétiens dans le monde politique, pour dire aux gens, nous ne nous tairons pas, vous pourrez nous faire tout ce que vous voulez, nous continuerons de parler parce que nous sommes les héritiers d'une parole que nous avons la mission de propager partout.
Pour vous, que représente cet engagement en politique ?
J'y suis entré par hasard, il y a plus de 30 ans. On peut entrer en politique par hasard. On peut entrer n'importe où par hasard. La question, c'est pas pour qu'on y entre, c'est pour qu'on y reste. Et j'y suis resté parce que c'est une école, j'y ai trouvé, tout le monde n'y trouve pas ça, j'y ai trouvé, une école remarquable d'humilité, de patience et de service. Et c'est probablement ce dont j'avais besoin aussi dans ma vie spirituelle et des axes de progrès qui pour moi étaient importants. Donc je suis resté là, ça fait 30 ans maintenant que je suis engagé, j'ai eu la chance d'exercer des mandats locaux significatifs, un mandat national, j'étais candidat à plusieurs élections, à la présidentielle en 2016-2017, enfin la primaire. J'ai voyagé dans de nombreux pays, rencontré des gens formidables de partout.
Et on peut vous demander, en 30 ans d'activité, d'engagement, de service, où vous avez appris l'humilité,
je continue d'essayer d'apprendre, parce que c'est jamais fini.
Quel est le bilan ?
Une grande joie. Le sentiment d'avoir été là où je devais être, ce qui est une richesse incroyable. Le fait d'avoir consacré 30 ans de ma vie à des choses que j'ai aimé faire. Une passion pour l'engagement. Et puis, d'aussi loin que je regarde dans ma vie, je me dis que, au fond, dans tout ce que j'ai pu être amené à faire, en le choisissant pleinement ou en étant conduit, parce que c'est toujours un peu un mélange des deux, hein. J'ai été un très jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture, où j'habitais en banlieue nord de Paris. J'avais 19 ans quand j'ai pris cette responsabilité. J'ai enseigné la philosophie et les lettres. J'ai été cadre et DRH dans l'industrie. J'ai dirigé un cabinet de conseil. J'ai présidé plusieurs associations. Je me suis engagé en politique. Le fil directeur, c'est la dignité de la personne humaine. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui motive aussi beaucoup des livres que j'ai publiés. Y compris sur le monde du travail, sur le droit social, sur la pénibilité, sur les risques psychosociaux, ça fait partie des choses que j'ai faites aussi comme parlementaire. Et voilà, donc le fil conducteur de mon existence, c'est ça. Et c'est le fruit aussi de 30 ans d'engagement politique qui ont nourri et d'une certaine manière achevé, c'est pas fini, mais enfin en tout cas complété cet engagement initial qu'ils lui ont donné corps, qu'ils l'ont décliné en quelque sorte.
Alors vous avez écrit, et je vous reçois toute cette semaine, et j'invite les auditeurs à devenir eux-mêmes lecteurs de cet ouvrage qui est paru aux éditions MAM, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Votre livre explore l'histoire et les fondements éthiques et religieux des soins palliatifs. Vous êtes donc un expert en bioéthique et en droit social. Vous rappelez l'importance des soins palliatifs pour accompagner dignement les mourants, et vous êtes en désaccord avec l'idée que la médecine puisse s'affranchir de la mort et mettez en avant la fraternité et la solidarité comme valeur essentielle. Votre livre, on peut le dire, Jean-Frédéric Poisson, plaide pour une meilleure reconnaissance et promotion des soins palliatifs comme une alternative humaine. Aujourd'hui, permettez-moi, homme politique que vous êtes, défenseur du début de la vie à la fin de vie, les auditeurs qui vous écoutent, hein, qui pourraient vouloir aller plus loin et vous lire, pourquoi cet ouvrage ?
D'abord parce que, pour le philosophe que je suis, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la dignité et la responsabilité dans la loi française de bioéthique de 1994 autour de la procréation médicalement assistée, des greffes d'organes, de toutes ces questions qui sont posées par la manipulation de l'humain en réalité. Il y a un très grand mystère par rapport à ce que nous avons connu, enfin les personnes de ma génération qui se reconnaîtront, quand nous étions collégiens ou lycéens, c'est que le rapport à la mort était plus direct. Nous étions habitués à lire dans la littérature classique, dans la poésie, dans les tragédies qu'on apprenait en cours de français, d'être confrontés à la mort tout le temps. Tout le temps. Alors une mort romancée, certes, mais réelle. C'est-à-dire que il y avait une réalité, une consistance. Et je me souviens en particulier d'un épisode qui m'a bouleversé, je m'en souviens encore maintenant, pourtant j'étais en classe de seconde, vous voyez, donc ça commence à dater un peu. J'avais un professeur de français, monsieur Mornay, un grand monsieur avec un caban de marin, une barbe poivre et sel. Il est arrivé en classe un matin et il a lu La mort des pauvres de Baudelaire, un magnifique sonnet. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre, c'est le but de la vie, c'est le seul espoir, etc. Vous trouverez ça dans Les fleurs du mal. Il a terminé la lecture de c'est un sonnet, il y a 12 vers, hein, donc ça prend une minute et demie. Il y a 14 vers, pardon. Et il a dit, voilà, je suis venu vous lire ce poème ce matin pour vous dire bonjour, mais je ne pourrai pas assurer le cours parce que je dois aller aux obsèques de mon père. Et quand on a 15 ou 16 ans, qu'on reçoit ça en pleine figure, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette réalité qui est voilà. Et donc on était habitués à ça. Les générations d'aujourd'hui n'ont pas ce rapport. Je raconte dans mon livre que je me suis retrouvé un jour dans une cérémonie du 11 novembre avec un jeune cadet des pompiers de Rambouillet qui avait 16-17 ans, qui pour la première fois de sa vie venait dans un cimetière. Donc ce rapport à la mort est devenu complètement virtuel en réalité. On ne veut pas la voir, on la cache. On cache les détenus dans les prisons, on cache les personnes âgées dans les EHPAD, souvent en tout cas. Les mourants dans les hôpitaux, le moment où on les voit, mieux on se porte. On cache les handicapés, les toxicomanes, enfin tout ce qui ne va pas bien, on le met de côté, on ne veut pas le voir. La fragilité, on n'aime pas
oui,
ça.
La vulnérabilité, on n'en veut pas.
On n'aime pas ça du tout.
On veut des hommes et des femmes forts et solides, puissants,
consommateurs, éclairés, riches, etc. Tout ce qui va bien. Bon. Et alors, il y a une interrogation sur le statut de la mort dans la société occidentale, c'est comme ça que je commence le livre d'ailleurs. Et puis deuxièmement, j'ai une très grande émotion à écouter à chaque fois les intervenants aux soins palliatifs, qui font un travail invraisemblable, on y reviendra certainement. Et c'est pour prendre leur défense en fait, et essayer de dire un peu ce qu'ils font, que j'ai écrit ça.
Eh bien, ça tombe bien, je vais vous proposer de vous retrouver demain, quelques minutes encore, et toute la semaine, Jean-Frédéric Poisson, nous parlerons de ces rencontres que vous avez eues, et il est important aussi d'aller sur le terrain, et sur le terrain, on rencontre, Et la rencontre, c'est une écoute. Je vous propose de vous retrouver demain, ici même, dans ces studios, puisque vous êtes de passage à Lourdes, dans la cité Marielle, pour une conférence. On vous reçoit, vous nous donnerez, je l'espère, quelques pistes de réflexion et quelques clés pour bien vivre, mieux vivre, et peut-être aller jusqu'au bout et bien vivre aussi cette fin de vie qui est le dernier voyage. À demain et merci.
À demain.
Présence.
Des clés pour vivre, l'intégrale.
Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, c'est le titre de la série, mais c'est surtout le titre de cet ouvrage que je vous invite à lire, chers auditeurs de nos radios chrétiennes. Il est paru aux éditions MAM, avec un peu un sous-titre, hein, une personne ne doit mourir seule. Sans plus tarder, je vous salue, monsieur Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour à tous, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez rencontré, qu'est-ce que vous avez entendu de ces soignants professionnels, parfois bénévoles, monsieur Poisson?
La première chose que j'ai entendue, c'est avec une espèce d'émerveillement, des personnes qui parlent de leur métier, de leur activité, parfois c'est leur métier, d'une manière telle que c'est comme quand on était, enfant, qu'on entendait parler à un médecin ou un pompier, on se disait « je veux faire ça ». Il y a quelque chose d'appétissant, si je puis dire, dans la pratique des soins palliatifs, il y a une telle humanité, une telle générosité, une telle patience, une telle inventivité. Il y a tellement de choses qu'on voudrait voir se déployer partout dans la société. En réalité, c'est presque un modèle pour les relations humaines, les soins palliatifs, quand on y pense, quand on s'arrête un peu sur ce que veut dire, sur ce que signifie cette pratique-là. Et j'ai vu des personnes qui étaient admirables, dévouées. Et c'est l'humilité qui m'a le plus frappé, parce que il y a cette volonté de prendre, d'une certaine manière, prendre le patient tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on abandonne tout, on se concentre sur lui, que lui. C'est lui qui rythme les soins, la nature des soins, le contenu des soins ou de l'accompagnement. C'est lui qui donne. C'est lui le patron en fait, le patient.
D'où l'humilité du soignant.
Oui, si fragile qu'il soit, si dégradé qu'il soit, c'est lui qui commande. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette affaire quand même. Et c'est pour ça qu'un des enseignements des soins palliatifs, c'est oui, la fragilité est une valeur. La vulnérabilité est une valeur. C'est très très antithétique, c'est très contraire à ce qu'on vit dans le monde moderne en réalité. Et c'est admirable.
Alors redonnez très vite pour les auditeurs et auditrices qui vous écoutent aujourd'hui, maintenant, et qui vous suivront, je l'espère, toute cette semaine, la définition exacte des soins palliatifs.
Alors, une définition exacte, ils la trouveront un peu partout, hein, sur le site du ministère de la Santé ou sur le site de l'Association française des soins palliatifs. C'est un ensemble, c'est un accompagnement qui est procuré aux personnes pour qui tous les traitements médicaux ont échoué. Donc ça s'adresse à des personnes dont on sait qu'elles vont disparaître.
Donc c'est la fin de vie.
C'est ça, on est
maladie
en fin de vie.
Maladie incurable.
Alors oui, ou en tout cas échec définitif de tous les traitements médicaux. On sait que les personnes à qui ça s'adresse ne pourront pas guérir. Et que elles vont s'en aller dans un futur proche. Et donc c'est un ensemble à la fois de soins, de traitements et d'accompagnement de toute nature. Culturel, psychologique, social, affectif, spirituel, enfin on peut tout imaginer, qui n'a qu'un seul but, c'est de faire en sorte que les derniers instants de la vie soient les plus confortables, les plus dignes, les plus valorisants, les plus libres possibles, quel que soit l'état du patient.
Vous parlez de liberté.
Je parle de liberté, bien sûr, mais aucun sujet humain n'est jamais privé de sa liberté, de manière mystérieuse, on ne sait pas comment ça fonctionne, hein. Combien de gens qui ont été dans le coma nous expliquent qu'en fait ils entendaient tout, et même si quand on entend tout, que la conscience fonctionne, même si les sens ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'on a encore une liberté spirituelle qui, c'est mystérieux tout ça, faut faire attention, faut toucher à ça de manière...
Donc finalement on approche de ce mystère de la vie, et peut-être du mystère aussi du début de la création, hein, de l'humain, hein,
oui, oui,
si on voulait aller plus loin.
Ouais. Oui, oui, certainement, mais il y a quelque chose comme un résumé. Comme une forme de résumé de l'existence dans cette situation. On touche du doigt l'essence même de l'humanité. C'est pour ça que ça en fait un épisode
c'est
si particulier. si particulier, et puis alors on sait sur quoi, enfin, c'est sur quoi ça s'ouvre. Oui, on sait à peu près sur quoi ça s'ouvre. Ça peut prendre du temps, mais enfin, l'éternité est devant nous. Et évidemment, comme l'éternité devant nous, c'est le choix radical de l'existence, ma foi, on...
Permettez-moi, j'ai presque envie de réagir, puisque nous sommes sur cette thématique de la semaine autour des soins palliatifs, donc cette fin de vie qui est de l'ordre aussi de cette finalité dans l'humain. Est-ce que ces soins palliatifs, cette fin de vie, et dans votre engagement vous-même en tant que politique, Monsieur Poisson, c'est une manière aussi, dans votre engagement, d'accompagner cette humanité, cette création qui est belle, qui est grande, mais qui est aujourd'hui dans notre société, nos sociétés, peut-être particulièrement aussi en France, fragilisées par de nombreuses lois sociétales.
Bien sûr que oui. Je dirais que la raison de cet engagement, c'est la volonté constante chez moi d'essayer de rappeler à mes contemporains que l'homme est un être d'une valeur tout à fait éminente et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et ça commence avec la conception de l'embryon et ça se termine avec la mort naturelle sur son lit de mort. Quand on peut aller jusqu'à la mort naturelle sur son lit de mort, ce qui évidemment n'est pas le cas de beaucoup de nos contemporains. Mais c'est vrai aussi sur le champ social. Moi qui suis un ancien DRH d'industrie et patron de cabinet de conseil, j'ai essayé, en travaillant dans le monde économique, de faire comprendre que le respect des conditions de travail a du sens, que les risques psychosociaux, le burn-out et la dépression au travail, ça existe, que vous ne pouvez pas traiter les gens comme des marchandises et des objets de tableau de bord, enfin tout ça c'est le même combat. Si vous respectez l'homme, vous respectez l'intégrité de son corps et vous lui procurez des conditions d'existence qui soient dignes, et les deux sont liés, c'est indissociable. C'est ça le message chrétien au fond, enfin pas que le message chrétien, ça devrait être un message de bon sens. Et les soins palliatifs sont l'incarnation de cette exigence, consiste à dire, plutôt que de rompre brutalement une existence qui ne vous appartient pas, même à la demande de celui qui voudrait la rompre, essayez de trouver les moyens, ils existent maintenant, on les a. Il y a 40, 50, 60, 80 ans, probablement que ça existait beaucoup moins ou peu ou pas. Puis on avait un rapport à la douleur qui n'était pas du tout le même non plus. Mais là, il y a tous les moyens pour accompagner les gens de manière digne. Voilà, dites aux gens qui sont en train de mourir qu'ils ont encore de la valeur et que la dernière seconde de leur existence, ils sont pleinement dépositaires de toute la dignité qui les a accompagnés pendant toute leur existence, jusqu'à la dernière seconde. Donc ils méritent notre attention.
Ils sont vivants jusqu'à la dernière seconde.
Ah oui.
Ça, c'est aussi important.
Bien sûr.
Même au cœur même de ces soins palliatifs où on accompagne une fin de vie.
Bien sûr.
La vie est présente jusqu'au bout.
Et c'est très un peu, bien sûr. Et c'est très important d'avoir en tête que les soins palliatifs, la pratique des soins palliatifs, c'est comme si le corps social dans son ensemble se mettait au pied du lit de celui qui est en train de partir. Tout le monde est là. On passe du temps, le temps qu'il faut. Pardon, il y a des bénévoles, des professionnels de santé, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychologues, des infirmiers, des médecins, des comédiens, je ne sais pas qui, il y a plein de gens. Plein de gens. Et tout le monde vient là parce qu'on accompagne, comme dans un certain nombre de cultures anciennes d'ailleurs, on accompagne le mourant pour son dernier mois, avant qu'il parte. C'est magnifique.
Alors,
il faut que ça se sache, parce que les gens ne savent pas que ça existe.
Alors pourquoi se taire, hein?
Pourquoi?
Pourquoi on se tait?
Ouf, alors là. D'abord, c'est plus facile, d'une certaine façon. C'est d'une certaine façon plus facile.
C'est éviter l'enjeu quand même du combat.
Oui.
Parce que vous parlez au fond, on parle de mort, on parle de soins palliatifs, mais on parle de cette humanité.
Bien sûr.
Qui touche l'homme. Hein. Et vous avez parlé de ces débuts de vie, dès le moment de la conception jusqu'à ce dernier moment de vie. N'est-il pas l'enjeu de notre humanité au fond?
Qu'on soit croyant ou non, on constate quand même dans l'histoire cette propension de l'humanité à se diviser en deux catégories. Les dominants et les dominés. Par hypothèse, les premiers sont plus nombreux que les seconds. Font moins nombreux que les seconds. Et le grand combat, parmi les grands combats liés à la condition humaine, il y a le point de savoir si on est d'accord pour dire que la dignité humaine s'envisage sans condition, sans exception et sans restriction. Dès que vous mettez un coin dans un de ces trois termes, Alors vous commencez à couper l'humanité en deux, et vous justifiez la domination des uns sur les autres. Vous pouvez le faire pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons culturelles, ethniques. Il y a 150 motifs, l'histoire malheureusement regorge d'exemples. Mais vous pouvez le faire aussi pour des raisons spirituelles. Parce que quand on est croyant, chrétien, on sait que la bagarre entre les anges du bon Dieu et les anges du malin, ça n'est pas une fable. Ça existe. C'est tous les instants de la création. Et que malheureusement, il y a sur notre terre des gens qui sont mal inspirés au sens strict de ces deux termes. Et qui ne veulent pas entendre parler de la même manière que les anges, si on en croit en tout cas le récit de la chute des anges.